Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc, on prend maintenant les textes sur l'adoration. Je vous ai donné un peu plus que produire l'adoration, ce qui se passe dans l'adoration. Maintenant, je vous confie avec les textes bibliques. Alors, le texte fondamental sur l'adoration, c'est Jean 4, versets 21 et 24. Il faut le lire, il faut s'en imprégner, il faut le garder comme priorité. C'est l'histoire de Jésus qui rencontre la femme samaritaine. Et puis, voilà ce qu'il lui dit, parce que cette femme, elle lui pose une question sur la louange et l'adoration. Elle lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc elle a un problème avec l'adoration, elle a une question sur l'adoration. Elle voit les ancêtres samaritains qui adorent sur le mont Garizim. Elle voit les juifs qui vont à Jérusalem au temple que David a construit à Salomon. Et disent, mais c'est qui a raison? Qu'est-ce qui est mieux, Garizim ou Jérusalem? Qu'est-ce qui est mieux, les anciens, les modernes? Qu'est-ce qui est mieux, sur la montagne ou dans le temple? C'est ça la question qu'elle a. Et vu qu'elle a Jésus en face, elle lui pose la bonne question. Et Jésus répond, verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. » Donc, finalement, le lieu, la forme, le style, ce n'est pas plus important. C'est ça que Jésus dit. Nous, on s'arrête souvent à ça. On passe des heures, des comités entiers d'église à discuter sur la taille de la sonore, la couleur du tapis, la grandeur de l'écran, la longueur de la louange, etc. etc. Et puis Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous, nous adorons ce que nous connaissons quand le salut vient des Juifs. Première question, la connaissance. Connaître celui qu'on adore. Très important. Et ensuite, elle vient, l'heure vient, elle est déjà là, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, l'adoration, c'est adorer le Père en esprit, en vérité. Que ce soit avec des guitares, des cymbales, des batteries, de la danse, des tambourins, des bannières, peu importe, adore le Père en esprit et en vérité. C'est ça. Et on reviendra à ce texte parce qu'il est fondamental. Genèse 22, c'est la première fois qu'on a le mot adorer dans la Bible. Première fois qu'il est mentionné, ça apparaît pas avant verset 22, le chapitre 22 de la Genèse. C'est à ce moment où Abraham va offrir Isaac en sacrifice. Et il dit au serviteur, restez ici, nous allons adorer. Donc voilà la valeur de l'adoration. L'adoration, c'est un sacrifice, quelque chose qui paye, qui coûte un grand prix. Et ça aussi, on y reviendra. Et là, vous avez le texte à retenir. Jean 14, versets 15 à 21. C'est toute la relation de l'esprit, de la vérité entre le Fils et le Père. Et ça, c'est une vraie adoration. Alors, vous le notez comme référence pour le retenir. C'est que le Saint-Esprit va habiter en nous et ça va nous donner une relation avec lui. 1 Jean 4. Verset 7 à 21. Ça parle de l'amour de Dieu, cet amour qui est en nous quand on l'aime. Et je pense que l'adoration, c'est cette dimension-là profonde. Un moment d'adoration, c'est un moment d'amour pour Dieu. Un moment où on aime Dieu. Donc Dieu nous parle de son amour, et nous parle de son amour pour lui et pour les hommes. Alors tout ce chapitre de 1 Jean 4, en tout cas tous ces versets, nous parlent de cela. Et Jean 15, c'est « Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent ». L'adoration, c'est une question de connaissance. Hein? Comme il l'a dit à cette femme samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons ». Vous savez, il y a des gens qui font se connaître sans connaître. Par exemple, ils disent, moi je connais le président de la République. Ah bon, c'est qui? Bah, c'est Jacques Chirac. Ah bon, il est comment? Bah, j'ai vu sa photo, il est grand, il a des lunettes, ça. Ah bon? Mais comment il est vraiment? Quels sont ses goûts? Où est-ce qu'il aime aller en vacances? Qu'est-ce qu'il aime manger? Quelle est sa couleur préférée? C'est ça connaître quelqu'un. Hein? Alors, il y en a qui ont des révélations spéciales sur Jacques Chirac. Mais vraiment le connaître, s'être en relation. Tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un si tu n'es pas en relation avec lui. Et voilà exactement la même chose que les gens ont avec Dieu. Ils disent qu'ils connaissent Dieu, mais en fait, ils connaissent juste Dieu. Ils disent, moi, je connais son adresse, il est dans une église, là. Il a une grande statue, puis il y a des gens qui le prient, mais ils ne le connaissent pas. Comme la Bible veut dire connaître, c'est-à-dire être en relation. Et l'adoration, c'est vraiment de connaître intimement. Et puis un texte qui est fondamental, c'est Matthieu 22, c'est 35 à 38. Parce qu'on a cette question que les pharisiens posent à Jésus. L'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et vous le connaissez, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus répond une fois de plus avec toute sagesse, avec toute intelligence, parce que ils ont tellement de commandements, les Juifs. Il y avait tous les commandements dans cet testament, plusieurs centaines. Et puis, ils en avaient rajouté encore plein et plein et plein. Ils avaient plus de 2000 commandements, les pharisiens. Donc, c'est impossible de suivre tous ces commandements et de vivre une journée sans enfreindre le moindre. Et puis, bien sûr, Jésus et ses disciples en enfreignaient sans arrêt. Alors, ils veulent savoir, comme ça, c'est typiquement une question humaine. C'est quoi le plus important, quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis après le reste, bon, on s'en occupe pas trop. Et puis, Jésus répond, mais avec un des commandements, le premier et le fondamental, c'est finalement, tout ce que tu le fais pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu l'adores, parce que tu es un adorateur de Dieu qui ne fait pas certaines choses et tu en fais d'autres. Donc la clé de l'adoration, c'est aimer Dieu, pas juste parce qu'on chante, parce qu'on est dans un groupe de louanges, parce qu'on joue de la guitare. On aime Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée. Alors voilà, on est dans la cible de l'adoration, on est arrivé au centre, on était là, la cible est très grande. Oh, on a les trois dimensions, et puis on se dit, mais voilà, on est arrivé. Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce qu'on fait quand on est arrivé là? Ben, on rentre à la maison. Mais alors, on passe les offrandes. Non, on va écouter le pasteur.
Les offrandes, c'est après l'adoration de l'esprit, c'est l'adoration de
la vérité. Alors, ça dépend pour qui. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bonne question. Là, il y a différentes cultures d'église, il y a différents vécus. Moi, je vais essayer de vous exprimer une pensée biblique par rapport à ça. Est-ce que tout s'arrête dans l'adoration? Alors, si tout s'arrête pas, comme quelqu'un a dit non, où nous conduit l'adoration? Quand je suis dans l'adoration, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Me lever et partir? Rester et m'endormir? Attendre? Qu'est-ce que moi je dois faire? Et qu'est-ce que Dieu fait dans l'adoration? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, ou s'il avait déjà vécu, si tout ça a arrêté, ou si ça a continué. Parce qu'il y a certaines personnes déjà aller jusque dans l'adoration, c'est difficile. Aller déjà jusque dans le troisième cercle, c'est dur. Beaucoup de gens s'arrêtent au premier ou au deuxième cercle. Hein, ils vont dans la louange, ils vont dans la reconnaissance, dans la louange, et puis ils arrivent aux portes du troisième cercle jaune, et puis ils disent, bon, c'est bon, je connais. J'ai vu Dieu, il est sur son trône. Ils ouvrent juste la porte de la salle du trône, ils voient Dieu au fond, là, 300 mètres, puis ils disent, c'est bon. Dieu est là, je l'ai vu, je peux rentrer à la maison. Alors, ils vont déjà même pas juste dans la salle du trône, puis ils vont même pas jusqu'au pied de Jésus. Mais quand tu arrives au pied de Jésus, comment on devrait vivre dans l'adoration, c'est à ce moment-là qu'il y a ces questions qu'on peut se poser. Alors, moi, j'ai trouvé une réponse dans un texte biblique, Ésaïe 6, versets 1 à 8. On va le lire ensemble. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements, par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Est-ce que ce texte vous rappelle quelque chose? Alors, ce texte est bien sûr très connu, mais il est dans l'Ancien Testament et pourtant, les textes les plus proches de celui-là se trouvent dans l'Apocalypse. Hein? Dans l'Apocalypse, on a 3 ou 4 fois des textes semblables où on a l'adoration devant le trône. Ça, c'est exactement une description de l'adoration. Je vis le Seigneur assis sur un trône, donc Dieu est sur le trône, il est assis. Il est là. Il remplit le temple. Et puis autour de lui, il y a des anges. Il y a de l'adoration. Il y a la sainteté. Il y a la gloire. Il se passe quelque chose d'impressionnant. Alors, quelle est la réaction de quelqu'un qui voit ceci, qui est dans cette situation? Voilà comment Ésaïe réagit, le grand prophète Ésaïe, qui est prophète depuis 5 chapitres, déjà depuis quelques années. Hein. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées. Voilà la réaction normale, naturelle, d'un être humain, même super spirituel, même super prophétique et prophète, tout ce que vous voulez, qui se trouve devant le roi des rois. Se dire, mais finalement, mais qui suis-je pour me tenir devant ce roi? Il ne vient pas avec son diplôme de libéto, il ne vient pas avec ses médailles, il ne vient pas avec ses capacités, son expérience. Seigneur, tu sais, moi je suis ancien dans l'église apostolique, évangélique, internationale, du plein évangile de je ne sais pas où. Hein? Je viens, il ne dit rien de tout ça, il dit je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, dans un peuple impur. Et ça, c'est la réaction normale de tout chrétien, quel qu'il soit, devant la présence de Dieu. Mais, à partir de là, nous, si nous réagissons comme ça aujourd'hui, j'espère que parfois vous avez encore ce réflexe de dire, mais Seigneur, qui suis-je pour être devant toi? Mais tu as, qu'est-ce que tu as? Ben, tu as la grâce de Dieu, tu as le sang de Jésus, tu as le sacrifice de Jésus, tu invoques tout ça. Ésaïe, il est dans l'Ancien Testament, il n'y a pas encore eu le sacrifice de Jésus. Comment il réagit? Mais l'un des séraphins vola vers moi. Avant qu'il n'y ait rien le temps de faire, c'est un ange qui le fait. Il tenait à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Donc, ça veut dire que Dieu fait tout. Il fait rien, il regarde, il assiste. Donc, nous, c'est la même chose, on est de la présence de Dieu, on assiste à la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un a pu fabriquer la grâce? Est-ce que quelqu'un a pu acheter la grâce? Est-ce que quelqu'un a pu la faire venir sur lui? Non. On peut juste l'accepter. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci parce que si je me tiens dans ta présence, c'est parce que tu m'as purifié, justifié, délivré, guéri. J'y suis pour rien. Mais je te dis merci. Et là, Ésaïe, il constate cela. Il voit, c'est un signe prophétique de ce que Jésus va faire, de la grâce qui purifie, du feu qui purifie. Dieu le fait et il lui dit, c'est bon, j'en vais t'empêcher. Donc tu peux rester là. Tu peux te tenir dans ma présence. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu parle. Quand tu es dans sa présence, quand tu es à ses pieds, quand tu es prêt à servir, quand tu es prêt à l'obéir, je crois vraiment que Dieu parle. C'est ce qui se passe. Et Dieu, alors on s'attend à quoi? Est-ce que Dieu nous compte, Dieu nous parle? Ésaïe, pauvre pécheur, va te repentir. Hein? On s'attend à des grandes révélations sur des choses incroyables. Mais Dieu, il parle tout simplement, sobrement, efficacement. Et en plus, il pose une question. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe se trouve face à Dieu, il entend une question et il répond. Tout simplement. Alors on va voir un petit peu tout ce cheminement. Comment on se trouve face à Dieu? Il y a une rencontre. Il y a un face à face avec Dieu. C'est ça l'adoration. C'est ça, c'est là où doit nous amener l'adoration. Face à face avec Dieu. Certaines personnes ne veulent pas se trouver face à face avec Dieu. Ils vont éviter de toutes les manières possibles. Ils ont peur de Dieu. Ils ont une mauvaise image de Dieu. Ou elles vivent dans le péché, ou dans le compromis, ou dans toutes sortes de choses qu'ils ne veulent pas. Parce que ce qui se passe, c'est que notre péché est mis en lumière. Notre impureté, même si on est les plus saints des chrétiens, on reste charnel, impur de notre nature. On n'est pas encore des anges glorifiés, des personnes sanctifiées parfaitement. Donc ça, c'est il faut apprendre à le gérer, quoi. À accepter que Dieu mette notre péché en lumière. Donc, la grâce de Dieu est nécessaire. Donc, je ne peux rien faire tout seul. Je ne peux pas y arriver avec mes œuvres. J'ai beau essayer d'être un bon chrétien, de bien prier, de bien lire ma Bible, d'être le meilleur du monde, d'aller à toutes les réunions, de tout étudier. Sans la grâce de Dieu, je ne peux pas. C'est sa grâce. Et à ce moment-là, je peux écouter Dieu, son cœur, ses désirs. Parce que Dieu a des choses à partager avec ses enfants. Donc, je suis capable de répondre à Dieu à cause de sa grâce, à cause de ce qu'il a fait pour moi. Et c'est ça qui me pousse à entrer dans l'action et l'intercession. qu'Ésaïe a dit, parce qu'Ésaïe, il était déjà au service du Seigneur. Il était déjà prophète. Il était déjà en train de parler, mais il était confirmé dans son appel. Confirmé dans son engagement. Il a dit, me voici, j'y vais. Quoi. Seigneur, envoie-moi. Il n'a pas dit, oh Seigneur, si c'était Ésaïe, s'il était suisse normal, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il m'a dit, ah Seigneur, attends voir, je vais réfléchir. Dis-moi quand c'est qu'on y va, combien ça va coûter, combien de temps ça va durer, puis je vais étudier ça. Et après, je te rendrai réponse. Hein? Ça, c'est un chrétien occidental normal. Mais Ésaïe, il ne sait rien, il a peu d'explications, il a juste cette vibration d'amour de Dieu si forte, cette question si brûlante devant sa présence qu'il ne peut pas. Il est obligé de laisser tomber toutes ses excuses, toutes ses questions, tous ces trucs. J'y vais, Seigneur. Je ne sais pas comment ça va aller, je ne sais pas quand ça va se passer, comment ça va durer, mais je veux y aller. Donc là, il se passe quelque chose d'incroyable. Une porte s'ouvre sur le ciel. Quand je dis sur le ciel, ben c'est pas juste sur les nuages, hein, même si cette image le montre. Mais il y a une ouverture qui se crée en nous. Et notre cœur rencontre le cœur de Dieu. Il y a un cœur à cœur qui s'installe. Dieu, c'est ça qu'il cherche. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre raisonnement. Ce n'est pas qu'on lui explique des choses ou que lui nous en explique des grandes d'une manière intellectuelle. Dieu nous partage un peu de son cœur. Parce que le cœur de Dieu, c'est ça la grande question. Qu'est-ce qui se trouve dans le cœur de Dieu? Réfléchissez, vous avez tous des idées. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Avant que je vous donne ma réponse, vous pouvez partager peut-être une ou deux idées que vous avez. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu?
L'amour.
L'amour, c'est juste.
Ses pensées.
L'avenir de l'homme. Nous sommes dans son cœur. Oui.
Projet, c'est directif pour nos vies.
Exactement. Projet, directif, destiné. Donc tout ce que vous dites est juste, mais je pense que justement le cœur de Dieu est tellement grand, tellement vaste, qu'il englobe tout ça d'une manière globale, totale. Et moi, ce que je vois, c'est que Dieu, il a sur son cœur un amour pour la terre entière, avec ceux qui sont sur la terre, les peuples, les nations, les langues et les tribus. Donc il s'intéresse à toi, parce que tu es un petit homme de la terre, tu es un terrien, mais il ne s'intéresse pas qu'à toi, il s'intéresse à ton peuple, il s'intéresse à ta nation, il s'intéresse aux autres peuples et aux autres nations. Donc quand il parle à Ésaïe et qu'il lui dit, qui va aller parler à ce peuple? Ben, ça veut dire, moi je m'intéresse au peuple d'Israël, puis j'ai besoin que quelqu'un soit mon porte-parole. C'est ça qu'il lui partage. Son fardeau pour ce peuple. Il dit, mais il ne m'écoute pas. J'ai besoin que quelqu'un vienne leur parler. Ben, vous le savez, le monde est dans sa main. C'est la photo de Dieu, non? C'est le sourire de Dieu, moi. Ça montre que la terre est tout petit pour Dieu. Donc à ce moment-là, on peut commencer à intercéder pour les nations. Parce que je crois que finalement, c'est ça notre appel. L'adoration nous conduit à l'intercession. Il y a une lumière qui s'ouvre sur le monde, sur la terre. La lumière de Dieu qui veut venir, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc l'adoration, tu te mets en connexion avec le ciel. Tu es dans la présence de Dieu, devant le lieu très saint, devant le trône, devant son amour, sa grandeur, sa puissance. Et tout à coup, tu te mets à réaliser comment il aime ce monde. Alors peut-être que le fardeau qu'il va te donner, tu ne peux pas l'avoir pour le monde, tu ne peux pas porter le monde. Personne d'entre nous peut avoir un fardeau pour le monde entier. Mais on va peut-être avoir un fardeau pour, je ne sais pas comment c'est pour vous, moi j'ai commencé à avoir un fardeau pour ma propre famille qui n'était pas chrétienne. Puis ensuite j'ai commencé à avoir un fardeau pour les jeunes de mon âge, dans ma région, dans ma ville, ensuite en Suisse romande. Puis après Dieu a commencé à me donner un fardeau pour la nation, pour la Suisse, commencer à porter des choses sur la nation, des réunions de prière nationales, des intercessions de jeunes fédérales, des moments forts. Mais je dis, mais c'est déjà grand. Puis après, Dieu me donne un fardeau pour d'autres nations, d'autres pays, pour aller apporter sa parole, pour aller évangéliser, pour aller louer dans d'autres pays, dans d'autres peuples. Mais c'est un tout petit peu de ce que Dieu lui porte. Vous imaginez, il porte toutes les nations. Mais je crois que dans sa présence, c'est le meilleur endroit pour recevoir un appel à le servir. Vous savez, on peut tous aller dans une réunion missionnaire, dans une école, dans un séminaire où quelqu'un, un bon orateur, va faire une très bonne démonstration des besoins missionnaire sur un pays, sur un peuple, il dit maintenant, qui veut aller? Puis il fait un appel, puis il demande à quelqu'un de lever la main, et puis il y a peut-être quelqu'un qui va répondre. Mais on peut y aller avec nos forces humaines, on peut remplir un trou, on peut répondre à un besoin, ou on peut répondre à l'appel de Dieu. Parce que Dieu nous le dit, c'est lui qui nous a appelés, puis on sait que c'est Dieu. Puis ça, ça change tout. Parce que si on fait que de boucher des trous dans l'église, répondre à des besoins, faire ça, parce qu'il y a toujours des choses à faire. C'est bien. Mais Dieu, il a plus. Il a mieux. C'est répondre à son appel à lui. Faire ce que lui vous demande. Et si votre appel, c'est juste de louer Jésus, de l'adorer, là où vous êtes placé, c'est déjà un très grand appel. N'est-ce pas? Enfin, c'est d'amener sa présence là où vous êtes, dans votre ville, dans votre église, dans votre village, dans votre région. Et ça, c'est un appel élevé, très important. Mais je crois que ce qui naît dans l'adoration, c'est le plus fort. Parce que ça naît d'un cœur à cœur avec Dieu. Ça naît cette révélation. Et Ésaïe, ça se passe au chapitre 6, Ésaïe a écrit 66 chapitres. Il n'y a pas eu d'autres moments où il y a eu d'autres révélations. Il a eu plein de paroles, il a été prophète, il a fait des choses extraordinaires, mais c'est le seul moment où il a eu cette révélation. Ça ne veut pas dire que le reste du temps, il n'a pas adoré, il n'a pas loué. Mais il y a un moment spécial dans cette adoration. Mais ce que ça me dit pour moi, ça veut dire qu'on continue d'adorer toujours. On reste fidèle, on adore Dieu dans les trois dimensions, on vient dans sa présence, on vient dans l'adoration, et des fois, il y a une révélation extraordinaire. Mais il y a des tas de moments où on reste dans ces trois dimensions, on expérimente ce cercle, et on vit dans cette louange, dans cette reconnaissance, dans cette adoration d'une manière constante. Sans forcer la main de Dieu et dire « tu dois me révéler, tu dois me parler, tu dois me dire quelque chose ». Mais tout à coup, tu vas être surpris parce qu'il y aura un face-à-face extraordinaire. Et Dieu va te parler. Et je suis sûr que vous avez déjà eu le privilège et l'occasion d'en vivre certaines fois. Mais ce n'est pas à chaque fois comme ça. Donc c'est peut-être là la difficulté de notre persévérance, de notre relation avec Dieu dans la louange, c'est de se dire, je m'attends à tout, mais s'il ne se passe rien, je reste en paix. Et je bénis quand même Dieu. Même si les circonstances n'ont pas été telles que j'aurais voulu, je le bénis, je le loue. Et je sais que c'est juste, je sais que c'est bon, et je sais que je dois le faire. Donc finalement, l'optique de tout ça, c'est de se dire, on va vivre dans ce cercle. Vous savez, dans nos églises, on dit souvent, on va entrer dans la louange. Hein? Parce que c'est un psaume qui le dit. J'entre dans ses portes. Alors, c'est mieux de ne pas rentrer dans la porte et de se fracasser contre. Hein? Donc c'est bien d'ouvrir la porte pour rentrer, ça c'est juste. Et moi, ce que j'aimerais mieux, puis je l'aspire pour ma propre vie, c'est de dire, si je ne sortais pas, je n'aurais pas besoin de rentrer. N'est-ce pas? Si je suis dans une attitude de louange, avant de venir au culte, quand je suis au culte, je n'ai pas besoin de rentrer dans la louange, j'y suis déjà. Je me suis levé ce matin, j'ai béni Dieu. Petit déjeuner, j'ai béni Dieu. En venant au culte, j'ai loué Dieu, j'ai écouté un CD dans la voiture, on s'est réjoui, puis on arrive au culte, c'est normal. Il y a tellement de gens, ça fait non seulement une semaine qu'ils n'ont pas loué Dieu, parce qu'ils n'étaient même pas au culte la semaine passée, donc ça fait 15 jours, puis qu'ils n'ont pas loué à la maison. Donc il leur faut 30 minutes de culte pour commencer à entrer dans la louange. Et quand toi t'as fini la louange, ils disent, « Ah, c'est déjà fini ?»« Moi, j'en viens à peine de commencer. » Je dis, « Mais écoute, non, ça fait 10 heures et des jours et des mois que ça dure. C'est pas terminé. » Donc il faut cessez de fragmenter, de partitionner, puis dire la louange c'est 30 minutes comme ça. C'est un cercle global qui fait partie de notre vie. Et ça englobe cette reconnaissance, cette attitude globale où on se dit, mais Seigneur, je te loue, je suis chrétien, je t'aime, c'est bon de te connaître, merci de m'avoir créé, merci de m'avoir donné la vie, merci pour la santé, merci pour ma vie, merci. Toutes les choses très concrètes. Puis en même temps, merci pour qui tu es, t'es bon, t'es miséricordieux, t'es plein de grâce. Et puis en plus, il y a des moments de face à face. Il y a des moments où le voile, il est déchiré. Il est tout le temps déchiré. Mais il y a des moments où on passe au travers et on va vraiment l'évangile. Et on ne s'arrête pas à distance, devant le cercle, devant la porte, en disant « Salut Dieu, tu vas bien, moi je vais bien, à la prochaine. Hein? » Et trop souvent, je vois que l'église, dans l'adoration, on arrive, on commence, on avance, puis on s'arrête. Et il faut qu'on aille plus loin. Parce que vous avez vu, d'après ce que je vous ai enseigné, que l'adoration, pour moi, c'est que le début. Après, on entre dans la mission, après, on entre dans l'intercession, après, on entre dans le combat spirituel, après, on entre enfin dans notre appel. Mais il faut aller jusqu'au bout de cette adoration. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont déjà de la peine à aller jusqu'au bout. Ils s'arrêtent avant. Parce que le bout où tu arrives dans l'adoration, c'est ce face à face où tu te prosternes, où tu te mets à genoux, où tu te mets prêt à obéir. Puis ça, ça t'engage. Chanter, taper dans les mains et puis rentrer à la maison, c'est facile. Mais quand tu es impliqué là, dans cette adoration, ça t'engage. Ça te pousse à quelque chose. Donc là, ça devient des fois un petit peu difficile, mais c'est, je crois, ce à quoi nous sommes appelés, ce à quoi toute l'Église est appelée, à entrer dans cette relation, dans cette communion, aller jusqu'au bout, pour répondre à l'appel de Dieu. Alors, je ne sais pas si avant que j'aille plus loin, il y a des questions précises sur ces trois cercles, ces trois dimensions, l'adoration, quelque chose que je n'aurais pas dit, je vous laisse quelques minutes pour une ou deux questions, si jamais, moi, je passe à autre chose.
Juste les quatre questions.
Les quatre questions, oui. Ça ?
Est-ce que tout s'arrête ?
Qu'est-ce qui se passe ensuite, donc ? Est-ce que tout s'arrête dans l'adoration ? Parce qu'il y a des gens pour qui c'est le but ultime. On adore Dieu, après, le culte est fini, quoi. Alors c'est bien, il y a des fois ça suffit. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Parce que déjà de se retrouver au pied de Jésus, puis de se prosterner devant lui, de reconnaître sa sainteté, c'est déjà bien. Mais il faut aussi être prêt à ce que ça aille plus loin. Donc si on arrive à ce moment-là, à midi moins 5, quand on sait que le culte se termine à midi, ça sera difficile. Donc il faut se donner des fois le temps d'y arriver avant, ou d'une autre manière, ou à un autre moment, pour pouvoir avoir le temps d'aller plus loin. Où nous conduit l'adoration ? Que dois-je faire à ce moment-là ? Qu'est-ce que Dieu fait ? Il faut penser à ce que nous, on doit faire, quand je dis nous, en tant que responsable de louange, en tant que président de culte, en tant que pasteur, en tant que responsable, qu'est-ce que... Comment on gère ce moment-là ? C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et le rôle du président à ce moment-là il est très clé. Et beaucoup, ben, ils préfèrent le statu quo. Bon, tout va bien, Dieu est là, on s'arrête. Quoi. Mais c'est là qu'il faut sentir les choses et puis peut-être justement aller plus loin. Et puis se dire, mais est-ce que Dieu n'a pas encore quelque chose à faire ? Est-ce que Dieu n'a pas encore une parole à donner ? Une direction à prendre ? Et c'est pas forcément sous forme. Attention, prophétie. Hein? Il y a quelqu'un qui va prophétiser et puis tout sera bon. Peut-être que Dieu va parler dans les cœurs, peut-être que ça sera une danse, peut-être que ça sera un chant, peut-être que ça sera le silence. Ça ne va pas être systématique. Mais savoir que Dieu, il faut lui donner l'occasion aussi de faire ce qu'il veut faire. C'est peut-être là qu'on a les plus grandes difficultés, questions.
Oui ? Par rapport à ça, je ne sais pas si tu vas parler des enseignements sur le tabernacle.
Oui, je vais parler du tabernacle. Ouais. D'accord, si je n'ai pas tout dit à ce moment-là, ce tabernacle. Tiens. C'est vrai que ces trois dimensions, on peut tout à fait les comparer au tabernacle. Hein. Les trois cercles, je ne l'ai pas fait dans cet enseignement-là, mais imaginez bien que les trois cercles, ça correspond aux trois parties du tabernacle, c'est-à-dire le gris, c'est les parvis, la cour, ensuite le violet, c'est le temple, et le jaune, c'est le lieu très saint. Hein, que ce soit le tabernacle de Moïse ou le temple de Salomon, c'est les trois parties qu'on retrouve toujours. Donc, on retrouve ça dans plein de situations, et c'est important de considérer ces trois dimensions aussi, par rapport au tabernacle. Bon, tout est clair. Alors, je vais passer à la suite.
Parce que la suite, finalement, c'est
comment faire à partir de ça. Donc, je vais commencer un enseignement qui s'appelle conduire la louange. Parce que maintenant, je vais être assez pratique. On va reviendra des choses plus spirituelles. Mais là, comme ça s'enchaîne très bien avec ce thème, conduire la louange. Comment faire pour que tout le monde lève les mains? Il suffit de dire, levez les mains. Et ça peut... Ouais, vous n'avez pas vu qu'il y a un gars avec un pistolet derrière. Non. Alors, conduire la louange. Là, je suis très pratique. Hein. Je parle de beaucoup d'expériences et des choses que j'ai pu vivre. Alors, question qu'on pose toujours, qui a le droit de conduire la louange? Qui peut la conduire? Qui doit la conduire? C'est très important. Alors, première réponse, tous les adorateurs. Et mon critère, il est ouvertement précis à ce niveau-là. Parce que beaucoup de gens dans les églises disent, bon, tu es musicien, tu peux faire la louange. Mais pour moi, ce n'est pas le critère numéro un. Ce n'est pas d'être un musicien, mais c'est d'être un adorateur. Il y a des musiciens qui sont très bons adorateurs, mais des musiciens qui sont des très mauvais adorateurs. Ils sont tellement pris par leur musique, concentrés sur leur musique, qu'ils veulent faire un concert. Et c'est pas ça l'adoration. Donc il faut connaître l'objectif. C'est quoi le but? Conduire la louange, c'est amener la louange. Il y a des gens, on leur dit de conduire la louange, mais ils n'amènent pas la louange. Ils n'amènent pas du tout un esprit de louange. Ils amènent un esprit de spectacle, un esprit de concert, un esprit de performance, tout ce que vous voulez. Mais ils n'ont pas compris l'objectif. Ou bien c'est des gentils animateurs, style Club Med, ils sont super sympas, ils savent bien parler dans un micro, ils savent dire aux gens tout ce qu'ils doivent faire, debout, assis, coucher, debout, assis, coucher, coucher, debout, lever, lever, coucher. Et ça devient de l'aérobic sympathique, et les gens sont contents, parce qu'ils ont fait plein de gymnastique à l'église, mais c'est pas ça l'objectif, n'est-ce pas? Ah bon? Ça dépend des églises, hein? Il y a certaines églises, c'est ça leur objectif. Bon, savoir adorer soi-même. Il faut que celui qui conduit la louange, pour moi, ça doit être, enfin, le premier critère, c'est un adorateur, quelqu'un que tu vois adorer. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit sur scène ou devant pour diriger, tu vois que c'est quelqu'un qui aime adorer, qui adore. C'est-à-dire qui prie, qui chante, qui loue, qui est impliqué dans la louange.
Juste,
oui.
Ce que tu expliques là, c'est que tu parles des vidéos de louange ou tu parles du groupe en général?
Je parle des deux.
Là, c'est les critères qui... Tous ceux qui...
Non, mais je parle quand même... principalement de celui qui conduit, du leader, du président de louange. Mais pour moi, ces critères sont valables pour tout le groupe de louange.
Et donc, quand tu dis tous les adorateurs peuvent conduire la louange,
ouais.
Tu penses que ça veut dire que si on a un groupe de louange, par exemple, tu as 10 personnes qui sont impliquées dans la louange à l'église, tous potentiellement peuvent conduire.
Oui.
Tu penses pas qu'il faut des capacités,
oui,
particulières de leadership?
Oui. Mais ça, on va y revenir tout de suite. Hein, parce que. C'est une très bonne question, mais tu anticipes un tout petit peu trop. Donc, c'est vrai. Là, je parle globalement. Je crois que le premier critère, c'est d'être un adorateur. C'est dans ce sens-là. Après, on va voir spécifiquement par rapport à certaines choses. Ça peut être un peu plus pointu. Je suis d'accord. Mais c'est important de comprendre ça. Parce que, je vous donne un exemple. J'étais dans une église au Canada. Il y a une fille qui s'est convertie. Elle était prêtresse du Nouvel Âge. Et la semaine d'après, c'est elle qui conduisait la louange à l'église. Une semaine de conversion. En étant à fond dans le monde occulte. Mais parce qu'elle jouait de la guitare et que personne jouait de la guitare dans l'église, ils lui ont demandé. Donc, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux conduire une église? Elle savait pas ce qu'était l'adoration. Elle aimait Jésus, elle a dit Jésus, je t'aime, mais à part ça, elle a dû faire plein de trucs aussi très bizarres. Tu vois? Alors, moi je dirais, je préfère quelqu'un qui n'est pas de guitare ce dimanche-là, mais que ce soit vraiment un ancien, quelqu'un dans l'église qui sait ce que c'est Jésus, l'adoration et qui a une relation avec Dieu. C'est par rapport à ça que je te donnerai peut-être cet exemple. Donc, être un exemple, ça veut dire celui qui conduit la louange, c'est un exemple de louange. Si c'est quelqu'un, moi j'ai connu quelqu'un qui voulait tout le temps conduire la louange, mais qui était tout le temps en train de râler. Hein? Vous en avez parlé dans vos églises, des gens comme ça. Un râleur professionnel.
Ça va pas, c'est trop long, c'est trop de bruit, c'est trop fort. Là.
Mais moi je veux conduire la louange. Mais c'est pas très. Tu sens pas que cette personne, c'est un adorateur, quoi. Parce qu'elle se plaint de tout. Il n'y a jamais quelque chose qui va bien. Donc, c'est pas possible.
Elle veut faire la louange pour montrer que si c'est elle qui fait, ça sera mieux.
Voilà, exactement. Mais c'est déjà mal parti. aimer ceux qui sont avec nous, ça veut dire ceux qui sont dans l'église ou ceux qui sont dans le groupe. Si tu n'aimes pas l'église, comment tu veux les conduire dans la présence de Dieu? Si tu dis, oh, de toute façon, cette église, tu n'as rien compris, je vais leur montrer ce que c'est la louange, puis alors, hein, ça ne marchera pas. Tu dois pouvoir aimer, être rempli d'amour pour les gens que tu sers. Ensuite, il faut bien connaître nos dons naturels et spirituels, mais nos capacités, je dirais d'abord, naturelles. C'est important de savoir ce que tu sais faire, c'est-à-dire, tu veux diriger, mais tu n'arrives pas à aligner une phrase, tu n'arrives pas à parler, tu dois progresser dans tes dons, dans tes capacités, et que ça soit aussi au niveau musical ou autre. Il faut connaître ses limites, ses capacités, mais l'appel va souvent avec les dons que Dieu t'a donnés. Moi, j'ai été attiré dans ce ministère-là aussi parce que Dieu m'avait donné des capacités pour jouer et aussi pour diriger. Mais après, ça doit s'exercer, ça doit se travailler. Donc, il faut être bien conscient de qui on est et ce qu'on a reçu Dieu. Et puis, il faut toujours se rappeler que ça s'apprend. Il y a des gens qui pensent que tout leur tombe dessus par Dieu. Dieu confirme, Dieu donne des miracles, Dieu donne des grâces particulières, mais il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Hein? Comme là, vous êtes aussi en train d'apprendre dans cette école, à prêcher, à lire la Bible, à comprendre plein de choses. La louange aussi, ça s'apprend. Conduire la louange, ça s'apprend. Il y a des techniques musicales, spirituelles et tout autre. Donc, alors maintenant, je parle du conducteur de louange, les qualités de celui qui conduit. Donc, aimer Dieu et vouloir servir Dieu. Bien sûr que c'est évident, c'est simple, mais c'est important de se le rappeler, c'est-à-dire. Il faut vouloir servir Dieu, il faut le faire pour soi. Être appelé avec un don naturel. Dieu appelle toujours quelqu'un qu'il a qualifié, et ensuite peut-être qu'il va travailler ce don, qu'il va le fortifier, qu'il va l'encourager, mais si tu as donné un don, c'est pour l'utiliser, pour lui. Pendant longtemps dans l'église, on a dénigré ça, on a enfermé ça. On a des dons, on disait attention à l'orgueil, puis on faisait rien. Hein. Alors qu'aujourd'hui, je crois que Dieu veut mettre en valeur, et il nous a rappelé ça à son peuple, les dons qu'il nous a donnés. Il veut les faire fructifier, il veut les multiplier. Donc, comme dans la parabole des talents, où Dieu en a donné 5, 3 et 1 à certaines personnes, le plus important, ce n'est pas l'ombre qu'on en a, c'est qu'on les fasse fructifier. Hein, qu'on les multiplie. Ensuite, travailler les fruits de l'esprit, Galates 5, 22, caractère et prise. C'est-à-dire, quand tu veux être un dirigeant, tu auras bien besoin des fruits de l'esprit. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, l'amour, tous ces dons-là, c'est l'idéal à travailler. Quoi. Puis tu es obligé de les travailler quand tu as une possibilité, une responsabilité devant Dieu. Quand tu travailles avec des artistes, des musiciens, des chanteurs, encore plus. Mais avec des chrétiens en général, tu en as besoin. C'est pas pour rien que Dieu avait prévu ça pour nous. Hein. Donc, on travaille, on demande ses fruits d'esprit, et puis on les recherche. Ensuite, être rempli du Saint-Esprit, ça me semble difficile de conduire sans le Saint-Esprit. Il y en a qui essayent. Alors, à ce moment-là, tu deviens un chef de chœur, tu deviens un musicien très doué, tu deviens un gentil animateur, comme je dis, mais il manque une dimension, quoi. Sans le Saint-Esprit, c'est difficile d'être inspiré pour conduire les gens dans la présence de Dieu. Être un adorateur, bien sûr, je l'ai déjà dit avant pour ceux qui conduisent, donc celui qui conduit, sa qualité première d'être un adorateur. C'est-à-dire qu'un adorateur, comment ça se voit, ben, c'est quelqu'un qui aime adorer en toutes circonstances. Pas seulement quand il est sur scène avec sa guitare, mais aussi quand il est dans la salle, même au dernier rang. Même s'il a quelqu'un à côté de lui qui chante faux, même si la chaise sur laquelle il est assis est un peu tordue, même si la sono n'est pas très bien réglée, même si, tout ça, tu restes un adorateur. N'est-ce pas?
Amen.
Conducteur, il doit exercer une autorité spirituelle, que tu le veuilles ou non. Si tu es conducteur, c'est que tu as une autorité. Ça ne veut pas dire que tu deviens tout d'un coup le chef des chefs, tu commandes tout le monde, mais dans ton ministère précis, tu dois exercer l'autorité. C'est comme une course de témoin, on te passe le bâton et tu le prends. Et à un moment donné, précis, quand tu conduis, tu dois vraiment conduire. Bah, si tu es en train de conduire en t'excusant tout le temps, en disant ouais, mais je sais pas, excusez-moi, on m'a demandé de faire quelque chose, alors je vais aller vers, pardonnez-moi si je veux. Hein, faut pas s'excuser, à un moment donné, tu y vas. Oui?
Justement, celui qui conduit la louange, il a une autorité au niveau de l'assemblée.
Oui?
Donc, comme tu dis quelque chose, mais voilà, après, c'est à lui de. Est-ce qu'il peut dire tous les trois chancelaires ou en se plaindre? Comment l'assemblée doit le prendre?
C'est une question après de savoir gérer l'autorité et pas abuser de cette autorité. Parce que justement, une fois que tu as un micro, tu as un instrument que tu es devant, tu peux très bien abuser de ça. Et il y a facilement de l'abus simplement parce que tu es devant. Il y a des gens qui vont faire n'importe quoi, mais comme les chrétiens, ils sont super gentils, polis, ils vont pas te lancer des tomates à la figure à l'église, ils vont faire tout ce que tu leur dis, ils vont se lever, s'asseoir, chanter. Mais à long terme, tu ne vas pas gagner de l'autorité et du crédit parce que les gens ils commencent à te connaître et disent oh, bah, avec lui on sait, on fait tout sans se lever, s'asseoir, lever, à debout, assis. Ah, les gens ils ont soif de plus quoi. Hein? Donc c'est à toi aussi de grandir dans ta maturité puis de réaliser puis de ne pas abuser de ça. Puis de toute façon, toute autorité est soumise à une autre autorité. Donc même si je conduis la louange, moi je me soumets au pasteur ou au président. Je suis invité dans une église, j'ai beau m'appeler si vraiment être responsable de louange depuis des années, je dis je me soumets à toi. Où que j'aille, où que je me trouve. Je me soumets à la personne qui est là. Donc, s'il trouve que j'en fais trop ou que je ne fais pas assez, il a le droit d'intervenir. Mais si quelqu'un intervient dans la louange, je ne suis pas vexé, moi. Avant, j'avais l'habitude plutôt de me dire, oh, mais pourquoi il fait ça, il prend la parole. Si tu le prends sur toi humainement, tu le prends mal. Mais si tu le prends spirituellement, dis, bon, on est ensemble, on porte ça ensemble. Moi, j'ai l'autorité, mais tout d'un coup, je peux trébucher, puis lui, il vient me relever, quoi. Donc, j'ai besoin de ça. Et moi, je réclame d'avoir une autorité à mes côtés. Pour m'épauler, me soutenir. Mais en même temps, lui, il va me respecter, et tant que je tiens la route, il ne va pas me casser, il ne va pas me couper la route, il ne va pas me couper la parole, parce qu'il voit très bien que je fais quelque chose qui est sain, qui est juste, qui est bon. Mais si, par hasard, voilà. Donc il faut aussi que ceux qui ont l'autorité respectent les autres personnes d'autorité. Mais toute autorité est soumise à une autre autorité. C'est là qu'on a souvent des tensions, des difficultés. Dès que quelqu'un veut plus soumettre, malheureusement, ça va être difficile de continuer. Oui.
Qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres, et moi je rencontre beaucoup, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup, qui ont toutes les qualités qui sont là,
oui.
Mais celle qui manque, c'est le leadership, qui aiment le Seigneur, qui sont passionnés, qui transmettent quelque chose aux personnes, mais à cause de leur personnalité qui est encore affirmée,
ouais.
Elles n'osent pas conduire, encourager, pas trouver la chose spontanée, elles sont trop timides.
Ben ça s'apprend, ouais, ça s'apprend. Moi, j'ai été longtemps comme ça, j'étais timide longtemps, j'étais hésitant longtemps, mais qu'est-ce que j'ai eu besoin, c'est d'avoir d'appui de père spirituel. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai senti quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi, de la vie chrétienne, dans la louange, d'expérience, qui se tenait tout près de moi, qui disait, juste avant la louange, hein, qui priait pour moi en m'imposant les mains, en disant, vas-y Sylvain, on compte sur toi, on sait que tu es appelé, et puis tu vas y aller. Tout d'un coup, ça m'a libéré, puis cette personne restait derrière moi, ce n'est pas comme une ombre qui me contrôle, mais une sécurité, quoi. Donc moi, c'est ça qui m'aide, c'est d'avoir l'appui de quelqu'un qui m'encourage dans ce que je fais, mais qui peut aussi me reprendre.
Mais en somme, si elle a tous les autres dons, mais que ça, elle n'a pas encore développé, tu as parlé des principes que certainement elle est quand même appelée, même mais, toi...
Exactement, l'appel de Dieu, il ne change pas, l'appel, souvent il est brut au départ, à 15 ans, 12 ans, 10 ans, moi je vois des enfants, je vois très bien l'appel de Dieu, mais je sais qu'il y aura du travail, mm-hmm. Tu vois. Cette pierre, il faudra la polir, cette épée, il faudra l'aiguiser jusqu'à ce qu'elle devienne tranchante, jusqu'à ce qu'elle perce. Donc il ne faut pas que les gens se cachent là derrière en disant « Ouais, mais moi, je n'ose pas parler en public, je suis timide, je serai toujours timide. » Non, tu dois sortir de cette étape-là pour aller plus loin, pour être plus pointu, plus tranchant dans ce que Dieu te demande de faire. Oui ?
Et tu parles aussi de père spirituel, je crois que tu as une responsabilité toi aussi, hein, en tant que responsable, quand tu vois ce potentiel-là, c'est de le faire travailler. Quelqu'un où tu vois toutes ces dispositions-là, ce potentiel, mais qui n'a pas encore l'autorité ou les reins assez solides, ben, tu le fais exercer, mais avec toi.
Exactement.
Avec, et comme exactement. Ça, après, il se libère petit à petit. Exactement. Et un jour, tu peux le lâcher tout seul.
Voilà. Et on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous soutient. Moi, j'ai commencé, j'étais jeune, on faisait la convention, j'animais la louange dans une grande convention. On était 5-6 jeunes de mon âge, et puis moi, j'organisais les choses, et puis là, on faisait chacun son tour, parce qu'on se respectait, on dit voilà, une fois c'est Sylvain, une fois c'est Pierre, une fois c'est Jean, une fois c'est Jacques, d'accord. Et puis un jour, on se retrouve avant le culte pour prier, et les pasteurs disent, maintenant, ça va pas, Sylvain, c'est toi qui as appelé à conduire la louange, tu dois le faire. Moi, j'avais pas envie de le faire parce que devant mes autres, je disais, mais pourquoi moi plutôt que lui, c'est son tour à lui, c'est... Mais à cause de l'autorité spirituelle que j'ai reconnue chez ces leaders, chez pasteurs, j'ai accepté de prendre cette place. Ce qui était difficile vis-à-vis de mes camarades que je considérais comme égaux, mais à un moment donné, quand c'est Dieu qui appelle, ah, c'est à Dieu, quoi. Et tu réponds à l'appel de Dieu, tu obéis, même si ça peut causer quelques petites tensions avec des gens, quoi. Mais tu le fais en soumission, tu le fais pas en rébellion. Et c'est toujours là la grande clé, quoi. Si tu pars dans un esprit de rébellion, ça va pas marcher. Si tu le fais dans un esprit soumission, ça ira très bien. Donc je finis les qualités du conducteur et après on fait la pause. J'ai encore trois. Conducteur, être souple et flexible. C'est très, 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 très important. Vous ne pouvez pas être bon suisse, bien rangé, bien rigide, bien ficelé. Il faut laisser la souplesse et la flexibilité. Pour ceux qui jouent avec moi, qui chantent avec moi, ont l'habitude. Parce que j'arrive jamais à faire mon programme complètement, parfaitement, comme j'avais prévu. Pourtant, je me prépare tout le temps. Je reste quelqu'un d'organisé, préparé. Je prépare toujours une liste de louanges, toujours une liste de chants, je respecte toujours des chants. Mais quand le moment vient, ben, il y a toujours quelque chose d'autre qui se passe, quelque chose en plus, quelque chose de différent, quelque chose qui change. Et on a besoin de cette souplesse spirituelle, émotionnelle et musicale. Parce qu'il y en a qui maillent au niveau musical. Ouais, mais pourquoi on avait répété qu'on devait reprendre au frein sur le ré mineur? Pourquoi t'es parti sur ça? Je dis, je suis désolé, voilà. Il y en a d'autres, c'est musicalement, d'autres, c'est spirituellement, d'autres, c'est émotionnellement. Ils ne supportent pas, quoi. On doit travailler cette souplesse. C'est une qualité qui doit s'acquérir. Et ça prend peut-être du temps pour certaines personnes. Il faut déjà que le conducteur l'aide. Parce que si le conducteur, il est hyper rigide et puis qu'il ne change jamais, ça est difficile pour le groupe. Hein. Être un exemple, bien sûr, pour tout, en louange, en musique, en direction. Et puis être sensible aux autres, ça veut dire ceux dans le groupe, tu vas tenir compte un petit peu de leur sensibilité, de leur capacité, sans te laisser diriger par les émotions et les sensibilités de chacun, parce qu'il y en a qui ont envie de pleurer, il y en a qui ont envie de rire, il y en a qui ont envie de sauter de joie, il y en a qui ont envie de se repentir, ça ne va pas non plus. Hein? Mais tu es sensible à leur manière de vivre les choses, quoi. Et puis bien sûr à la salle, à sa manière de réagir, tout en faisant ce que Dieu veut dire.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.